RFI, 7h30 à Dakar, 9h30 à Khartoum. Et tout de suite le point sur l'actualité africaine avec vous, Pierre Boudias.
Les évêques ouest-africains réunis à Dakar depuis hier, 5e conférence épiscopale pour les prélats venus de 16 pays de la région. Au-delà des questions sécuritaires, le conclave sera bien sûr dans toutes les têtes. La ville de Port-Soudan, de nouveau visée par les drones ce matin, frappe sur l'aéroport de la capitale provisoire du gouvernement, la 3e en 3 jours. Des difficultés militaires auxquelles se sont ajoutées hier des défaites judiciaires. Le sud du Niger, toujours durement frappé par le terrorisme, pour la première fois, les djihadistes ont mené ce week-end des attaques coordonnées. Ils tentent toujours de sécuriser un axe vital pour le ravitaillement en carburant et en munitions. Et puis, ils sont venus mettre la pression sur les patrons d'ArcelorMittal, des militants qui ont fait le déplacement au Luxembourg à l'occasion de l'Assemblée Générale du 2e sidérurgiste mondial. Ils sont notamment venus dénoncer les pratiques de l'entreprise dans les pays en développement et en Afrique. Les prélats ont donc rendez-vous à Dakar depuis hier, la capitale sénégalaise qui accueille la 5e assemblée générale de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. Pendant une semaine, une centaine d'évêques venus de 16 pays d'Afrique sont réunis pour parler des questions qui agitent la communauté chrétienne dans la région. Et ce, alors que, coïncidence du calendrier, doit se tenir à partir de demain à Rome, le conclave pour désigner le futur pape à Dakar. Les explications de Léa Lisa Vesteroff.
La justice et la paix en Afrique de l'Ouest, c'est le thème de cette assemblée générale des évêques de la sous-région qui se tient tous les 5 ans. Pendant une semaine, la centaine d'évêques présents va se réunir à huis clos sur tous les sujets qui les intéressent. Aucun ordre du jour n'est rendu public, les plénières sont tenues secrètes. Parmi les problématiques majeures de la région, la crise du Sahel et le départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CDAO devraient être au menu de cette rencontre. Selon un membre de l'église sénégalaise, les divisions politiques ne doivent pas s'inviter dans la communauté ecclésiastique. Les liens de solidarité entre les églises des pays de la sous-région devraient donc être renouvelés. La présence du président Bassirou Diomaye Faye à l'ouverture des travaux aujourd'hui révèle en tout cas le poids que la voix de l'église a au Sénégal, même dans un pays à 95% musulmans. Autre sujet majeur qui est dans tous les esprits, l'élection du nouveau pape. Même si les conférences épiscopales ne participent pas au processus, les évêques ne manqueront pas d'en parler. Pour beaucoup, l'espoir est de voir un Africain nommé à ce poste et un pape plus conservateur que le précédent. Léa Lisa Vesteroff, Dakar, RFI.
Et justement, dans le journal de 8h30 temps universel, vous pourrez retrouver le dernier portrait de notre tour d'horizon des cardinaux africains qui pèseront lors du conclave aujourd'hui, celui de l'archevêque de Bangui, Dieudonné Zapalenga. En Côte d'Ivoire, la coalition de l'opposition, la CAP Côte d'Ivoire, renouvelle son appel au dialogue avec le gouvernement. À moins de 6 mois de la présidentielle, cette coalition, formée le 10 mars dernier, regroupe plusieurs figures de l'opposition, telles que Pascal Affine-Guessant du FPI, Charles Blégoudé du COGEP ou encore Tidjane Thiam du PDCI. Elle est toujours très critique vis-à-vis de la commission électorale qu'elle estime être partiale. Abidjan Bintadiagne.
La CAP Côte d'Ivoire remet en question la liste électorale provisoire ainsi que la commission électorale indépendante. La CEI n'a pas de légalité, affirme la porte-parole de cette coalition, Simone Eyvé, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo, qui appelle une fois de plus au dialogue.
La CAP Côte d'Ivoire réitère l'impérieuse nécessité d'opérer les réformes minimales nécessaires pour des élections transparentes, inclusives et crédibles en 2025. Une dernière lettre de relance de la nécessité de ce dialogue vient d'être envoyée à nouveau au chef de l'État.
Cette coalition compte organiser un meeting le 31 mai prochain à Abidjan pour réclamer notamment la réinscription des leaders politiques radiés de la liste électorale. Charles Blégoudé est chargé d'organiser ce rassemblement.
Nous voulons une compétition réelle qui puisse permettre aux Ivoiriens d'aller choisir personnalité à qui ils veulent confier leur destinée pour les 5 prochaines années.
Les élections seront apaisées, démocratiques et transparentes, soulignait récemment le ministre porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. Ce responsable politique rappelle par ailleurs que toutes les questions ont déjà été abordées dans la 5e phase du dialogue politique qui s'est achevée en mars 2022. Bintadiane Abidjan, RFI.
Le trafic est totalement interrompu ce matin à l'aéroport de Port-Soudan, la capitale provisoire du gouvernement soudanais située sur la mer Rouge, ciblée par une attaque de drones pour la 3e fois en 3 jours ce mardi. Des témoins rapportent également des explosions dans les environs du port d'où un panache de fumée s'élevait. Hier, c'est le plus important dépôt de carburant du pays qui avait été visé par les paramilitaires des forces de soutien rapide. La ville, qui sert de refuge à de nombreux déplacés, avait jusque-là été épargnée par les combats. Le gouvernement soudanais est sous le feu des FSR, est confronté à un revers judiciaire hier, celui infligé par la Cour internationale de justice après sa plainte déposée contre les Émirats arabes unis. Abu Dhabi était accusé de violer la convention sur le génocide en raison de son soutien supposé aux paramilitaires du général Hemeti, paramilitaires eux-mêmes soupçonnés de nettoyage ethnique contre la communauté massalite au Darfour, un dossier qui ne sera pas jugé sur le fond par la CIJ qui s'est déclarée non compétente pour entendre l'affaire. Explication de notre correspondante à La Haye, Stéphanie Maupart.
La décision de la Cour ne dédouane pas les Émirats de leur responsabilité dans le conflit en cours au Soudan. C'est une réponse technique que les juges ont rendue. Légalement, ils ne sont pas compétents pour examiner le fond de l'affaire. Pour comprendre, il faut savoir qu'en ratifiant la Convention sur la prévention et la répression du génocide en novembre 2005, les Émirats arabes unis avaient indiqué qu'en cas de différend avec un autre État, ils refusaient d'avance la compétence de cette Cour. Des réserves classiques que peuvent émettre les États lorsqu'ils décident d'adhérer à un traité. Sur le fond, Khartoum accusait les forces de soutien rapide de commettre un génocide contre les Massalites au Darfour et accusait donc les Émirats de complicité pour leur soutien à la milice du général Hemeti. La CIJ ne se prononcera donc pas sur cette question et pendant ce temps, la guerre continue au Soudan. Stéphanie Maupas, La Haye, RFI.
Au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema s'entoure de technocrates et de fidèles pour diriger le pays. Le néo-président a annoncé hier un gouvernement resserré de 30 personnalités. Parmi les nominations, celle d'Henri-Claude Oimia, le PDG de BGFI Bank, hérite du ministère de l'économie et d'une mission de rationalisation des dépenses de l'État. Le chef de l'État a décidé de renouveler sa confiance au ministre de la Défense, de l'Intérieur et à celui des Affaires étrangères. RFI, il est 8h36 à Niamey, le Niger, où des attaques djihadistes coordonnées ont eu lieu ce week-end dans la région de Dosso, cet axe vital dans le sud du pays. Pour les terroristes qui y font circuler leur ravitaillement en armes et en carburant, les djihadistes de l'État islamique au Grand Sahara prennent très régulièrement pour cible les militaires présents dans cette zone qu'ils tentent de contrôler. Mais c'est cependant la première fois qu'une attaque coordonnée est menée. Les précisions d'Alexis Guilleux.
Une première embuscade menée par des hommes lourdement armés a d'abord visé une patrouille départementale de la région de Douchi à 275 km de Niamey. Quasiment au même moment, trois positions militaires sont attaqués par d'autres terroristes dans les communes rurales de Dankansari, Soukoukoutane et Kiria, des localités situées sur l'axe qui mène à la frontière avec le Mali. C'est la première fois que des actions simultanées se produisent contre les forces de défense et de sécurité dans cette zone. Après un ratissage, un bilan provisoire non officiel fait état d'au moins 8 soldats tués et de 16 portés disparus. Dans chacune des 4 positions attaquées, les djihadistes ont emporté au moins un véhicule de type pick-up. Ces attaques se sont produites sur un même axe, le corridor Douchi et Krafan, frontière malienne bien connue de l'armée nigérienne. Régulièrement emprunté par les djihadistes, cet axe traverse une zone pastorale et relie le sud du Niger à la frontière malienne via les régions de Dosso et Tillabéri. Les forces nigériennes patrouillent constamment le long de ce corridor pour tenter de mettre un frein aux activités des djihadistes qui l'utilisent depuis des années pour se ravitailler en carburant, armes, munitions et surtout en moto tout-terrain.
L'insécurité, elle continue de frapper l'état du Borno, au nord-est du Nigeria, alors que la zone est depuis 15 ans l'épicentre d'une insurrection djihadiste. Son gouverneur, a visité lundi le plus grand camp de déplacés de la région, l'occasion pour Babagana Zuloum d'annoncer la fermeture de ce site de Mouna dans les prochaines semaines. Nouvelle étape alors que ce dernier s'est fixé pour objectif de fermer tous les camps de déplacés officiels de la ville de Maïdougouri. 80% des 2 millions de déplacés du conflit face à Boko Haram y avaient trouvé refuge. Une stratégie cependant difficile à mettre en œuvre dans un contexte de situation sécuritaire à nouveau dégradée, Lisa Fabian.
Boko Haram ne sera jamais éradiqué sans réinstallation. Les gens doivent retourner chez eux et gagner leur vie, a déclaré ce lundi le gouverneur de l'État de Borno devant les déplacés du camp de Mouna. En 3 ans, les autorités de la région ont fermé 17 camps de déplacés officiels autour de la ville de Maïdougouri, ce qui a impacté près de 167 000 personnes. Le camp de Mouna était le plus grand de la région avec 10 000 foyers recensés. Mais ce lundi, le gouverneur Babagana Zuloum a indiqué que 6 000 familles ont déjà été réinstallées et que le camp fermerait définitivement dans les prochaines semaines. Le processus a été ralenti par les importantes inondations qui ont touché la région en septembre dernier. Mais le gouverneur a estimé que la criminalité à l'intérieur du camp nécessite une action rapide. Les personnes déplacées recevront un petit pécule et pourront rejoindre rejoindre leur village d'origine ou s'installer dans une communauté haute considérée comme sûre par les autorités. Mais les observateurs internationaux estiment que cette approche a conduit à l'émergence de sites spontanés et à une pression accrue sur les autres camps de déplacés.
Lisa Fabian. Et puis le deuxième sidérurgiste mondial, ArcelorMittal, tient son assemblée générale à Luxembourg aujourd'hui. Pour l'occasion, quelques militants de pays en développement où opère le géant de l'acier ont fait le déplacement. Ils dénoncent l'impact des activités du groupe, pollution, émissions de gaz à effet de serre et atteinte aux droits des populations. Ils veulent demander des comptes à l'entreprise, mais aussi aux banques qui financent ces projets. Jeanne Richard a rencontré un activiste sud-africain.
Des cheminées de l'acierie d'ArcelorMittal à Vanderbilt Park, près de Johannesburg, s'échappent toutes sortes de gaz polluants et dangereux pour la santé, explique Mdoudouzi Chabalala, militant environnemental local.
Ils émettent différentes particules, des métaux lourds, du dioxyde de soufre et des oxydes d'azote. Du coup, les gens vivent avec des maladies respiratoires.
Le sol et l'eau sont aussi atteints.
La pollution est toujours présente sur le terrain. Il y a quelque temps, des vaches sont mortes juste après avoir bu l'eau de la rivière, de l'eau qui venait des installations d'ArcelorMittal. Et les agriculteurs parlent d'animaux qui ne se développent pas normalement.
Et malgré un plan de modernisation des installations et de décarbonation annoncé en 2019, bien peu de travaux ont été réalisés, estime-t-il. Aujourd'hui, il demande à l'entreprise de réparer ses torts.
Ils devraient utiliser des technologies bas carbone et réhabiliter l'environnement affecté depuis de nombreuses années. On espère aussi qu'ils vont maintenir l'emploi avec des postes consacrés à la transition.
ArcelorMittal a annoncé entre 4,5 et 5 milliards de dollars pour ses projets de décarbonation en 2025, mais sans préciser dans quel pays. La crainte en Afrique du Sud, c'est d'être oublié par le géant de l'acier.
Jeanne Richard qui vient clôturer cette édition. Tout de suite, vous retrouvez la suite d'RFI Matin avec Andréane Mellard.
Et c'était Pierre Boudias pour le journal à réécouter sur notre application RFI Pure Radio.